Est-ce que tu peux ouvrir mon ordi aussi? Yo, est-ce que tu peux ouvrir l'ordi là? Merci. Alors, est-ce qu'on a bien profité de cette semaine?
Oh, bah oui, on est fatigué, quoi.
En fait, on a beaucoup profité des moments autour de la parole. On a bien profité des moments en conversation avec les uns les autres. Et c'est là aussi où se trouve la parole de Dieu. Parce qu'on partage la parole de Dieu, on applique la parole de Dieu dans nos conversations. Et c'est là, c'est beau de prendre ce qu'on a appris dans les cours, dans les interventions, dans les ateliers, dans les DAB, et on peut l'appliquer directement à un autre. Et pour nous aussi, c'est très beau. On est bon? Allez, on y va, ça va aller. Mais qu'est-ce qu'on a fait cette semaine avec Jonas? Ne vous inquiétez pas, c'est une question rhétorique. Je sais que vous êtes fatigué. On va faire un petit bilan sur ce qu'on a vu à travers de cette semaine. Pendant ce bilan, s'il y a quelque chose qui a particulièrement vous frappé, surtout dans l'application, je vous invite de le noter et de trouver quelqu'un proche de vous semaine prochaine pour partager ce point d'application et de prier ensemble. Ce n'est pas pour leur bien, pour partager ce qu'on a appris ici. En fait, c'est plutôt pour vous, pour continuer à appliquer ce qu'on a appris. Donc, premièrement, on a fait un bon contexte de Jonas. On a parlé de l'alliance, et la relation entre l'Éternel et son peuple, comme arrière-plan de Jonas. Le but était d'être capable d'appliquer le message de Jonas premièrement à l'Israël, parce que ce livre a été écrit pour eux, de toute façon. Jonas, le personnage, fonctionne comme un miroir pour Israël. Et dans son tour, Israël fonctionne comme un miroir pour nous aussi. Lundi, on a creusé Jonas chapitre 1. On a vu que Jonas était prêt à s'identifier comme hébreu, qui craint le Dieu qui a créé le mer et la terre, mais ne voulait pas obéir à ce Dieu. Il a lutté contre la mission de l'Éternel au point qu'il préférait mourir qu'obéir. On a également vu que Dieu, l'Éternel, est le Dieu tout-puissant, à qui appartient toute la création. À travers des marins, on a vu la bonne réponse face à cette puissance, la crainte, mais une vraie crainte, pas comme celui de Jonas. Et encore, plus qu'une crainte, une soumission à son autorité aussi. Quand ils disent « Éternel, tu fais ce que tu veux ». Dans le miroir devant Israël, ils voient combien Éternel est grand, mais en même temps, combien ils mettent leur confiance dans leur statut en tant que peuple choisi de Dieu, au lieu de mettre cette confiance en l'Éternel lui-même. Pour nous, on a posé la question, comment est-ce qu'on est comme Jonas et Israël? Est-ce qu'on met notre confiance en notre statut en tant que chrétien? Puis on a vu Jésus comme exemple quand on n'aime pas ce que Dieu fait ou quand on ne sait pas ce qu'il fait. L'exemple de Jésus nous a montré qu'on pouvait toujours faire confiance en Dieu parce qu'il est notre bon Père céleste. Mardi, c'était le poème d'hypocrisie de Jonas. Jonas qui ne se repentit pas. Jonas qui se présente comme innocent tout en étant fortement coupable. Le personnage de Jonas est une condamnation d'Israël qui fait de la même manière. Nous, est-ce que nous sommes comme Jonas et Israël qui présument sur la miséricorde de l'Éternel, alors on ne reconnaît pas nos fautes? Ou est-ce que nous sommes plutôt comme David qui était vite à la repentance? Est-ce que nous sommes caractérisés par la repentance? C'est la grande question de cette semaine. Mercredi, on a vu la grande repentance de Ninive, le miracle de repentance. C'est une condamnation pour Israël qui tolère le péché. Quant à Ninive, ils ont renoncé tout de suite leur mauvaise conduite en recevant le message de Jonas. Cette question de tolérance de péché est assez pertinente. Une vie caractérisée par la repentance est l'inverse d'une vie où on tolère le péché. Ça mérite plus de réflexion dans nos vies personnelles, j'imagine. Petite parenthèse. Je voudrais préciser quelque chose par rapport au péché dans la vie du chrétien. Quelqu'un m'a posé une question excellente après avoir parlé de la fin de la patience de Dieu pour Israël. Est-ce qu'il y aura fin de sa patience envers nous? Ça, c'est la question. C'est une bonne idée de parler de l'alliance avec cette question. Pour Israël, l'Éternel a donné les stipulations pour comment vivre dans l'alliance. On peut dire la loi. Mais la loi a été donnée après les promesses à Abraham. Dieu a déjà établi son alliance avec son peuple avant de donner la loi. Donc, l'observance de la loi n'est pas le moyen par lequel Israël est entré dans l'alliance. Leur appartenance à l'alliance est par les promesses de l'Éternel. La loi était la façon de vivre dans cette alliance. Chaque fois qu'Israël n'a pas suivi la loi, ce n'était pas la fin de l'alliance à ce moment-là. Il ne sort pas de l'alliance avec un péché et revenu dans l'alliance une fois qu'ils se sont repentis. Israël était dans l'alliance grâce aux promesses de l'Éternel. L'alliance n'était pas annulée. C'est plutôt que la patience de l'Éternel arrive à sa fin. Il y avait toujours l'occasion pour les gens d'Israël de venir à l'Éternel. En fait, ça c'est le but d'une telle punition qui arrive après. C'est pour les faire revenir à Dieu. C'est le but de la punition. Pour nous, en tant que chrétiens, notre appartenance dans la nouvelle alliance n'est pas basée sur notre action. Elle est basée sur ce que Jésus a fait pour nous. Dieu nous voit comme justes grâce au sang de Christ. On est en Jésus. Il nous a donné son Esprit Saint comme garantie. Mais quand on pêche alors? Quand on pêche, on n'est pas directement hors de la nouvelle alliance jusqu'à notre repentance. On fait partie de la nouvelle alliance grâce à la croix. C'est la base de notre appartenance dans l'alliance. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au péché alors? La vie d'un chrétien n'est pas caractérisée par le péché, mais par la repentance. Dieu nous a donné les cœurs nouveaux qui cherchent la repentance. Ces nouveaux cœurs ne sont pas comme ceux d'Israël, qui avaient des cœurs endurcis. Fin de petite parenthèse. C'est plus grand que petit, mais quand même. Ok, hier, on a vu le dernier chapitre. On a vu que Jonas n'a pas voulu partager ce Dieu de compassion avec les autres nations. Puis, avec la petite histoire de la plante, c'était une leçon de Dieu pour montrer à Jonas qu'Israël est en train de profiter d'un temps de confort immérité, un confort qui vient de l'Éternel, mais aussi un confort qui arrive à sa fin. Cet livre en entier est un livre qui parle de Dieu, qui est le vrai Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, un Dieu qui n'aime pas l'hypocrisie ou la fausse religion, un Dieu qui prend plaisir en la repentance de ses créatures, et aussi un Dieu qui est tellement patient envers son peuple. Dans le sens que ce livre fonctionne comme un miroir pour Israël, on apprend qu'Israël a une toute petite vision de Dieu, qu'il a des formes religieuses, mais pas la repentance sincère. On apprend qu'Israël tolère le péché en pensant que ce n'est pas grave. et finalement qu'Israël est en train de profiter de la patience de l'Éternel, mais que cette patience va bientôt finir. Ce livre fonctionne donc comme tous les autres livres des prophètes. C'est un avertissement. Jonas, le livre, est écrit pour faire rappeler les gens d'Israël à l'Alliance, pour les appeler à la repentance, pour les avertir du jugement de Dieu qui va arriver. C'est marrant que le message de Jonas pour Ninive était un avertissement. Dieu va vous juger, alors que le livre en entier pour Israël, le message est un avertissement aussi. Dieu va vous juger. Maintenant c'est le moment de repentance. On ne sait pas pour chaque personne en Israël, mais pour la plupart, ce message n'a pas fonctionné pour venir à la repentance. Comme pour les autres prophètes, le peuple de l'Éternel s'éloigne de lui. Donc dans sa grâce, l'Éternel envoie un prophète pour les faire rappeler de l'Alliance. Parfois ça marchait, mais il n'y avait pas de changement durable. Israël n'a pas pu sortir de leur problème du cœur. Ils ont besoin de quelque chose d'autre. On arrive donc à Jésus. Je voudrais changer un peu l'ordre qui est dans vos livrets en parlant de Jonas, le type de Jésus, avant le signe de Jonas. Donc on prend les versets de Marc, puis après on prend celui de Matthieu. Ok. Est-ce que quelqu'un veut bien lire ces versets-là, juste pour changer, pour nous inspirer?
Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit : passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ? Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer : Silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres : qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent.
Merci, Jonas. Donc, dans cet évangile de Marc, Jésus et ses disciples se mettent à traverser la mer. La mer, on connaît déjà la mer. Et puis, cette histoire s'est passée. Quelle comparaison est-ce qu'on peut faire avec ce chapitre, avec cette histoire et chapitre 1 de Jonas? On peut dire à haute voix. Il y a une tempête, déjà, ouais.
Il dort,
ouais, c'est ça. Jésus dort, Jonas dort, ouais. Pardon ? Oui, les autres ont peur, ouais, c'est ça. Ouais.
La mer s'arrête.
Ouais, voilà, ouais. Ouais. La mer s'arrête, la mer se calme. Il y a des différences aussi. On n'a jeté personne dans la mer cette fois-ci, heureusement. Jésus parle directement au vent et à la mer. Il a la puissance sur le vent et sur la mer. Les marins étaient frappés par le calme après avoir jeté Jonas dans la mer, parce que cet Éternel avait la puissance sur la mer. Les disciples sont saisis par une crainte aussi. Parce que ce Jésus, devant eux, a la même puissance que l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus, il les exhorte parce que les disciples auraient dû comprendre ce qui est Jésus. J'ai calmé la mer, bien sûr, je suis Jésus. L'Éternel qui est le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre, c'est celui qui est tout capable, celui qui n'était pas seulement Dieu du territoire d'Israël. C'est lui qui est le seul Dieu qui a la puissance de calmer la mer. Mais si Jésus le fait, sans l'histoire de Jonas en arrière-plan pour l'évangile de Marc, peut-être on peut dire que Jésus a fait un miracle. C'est impressionnant. Mais avec une bonne compréhension de Jonas, on peut mieux comprendre ce qui se passe dans ce moment en Marc. Le parallèle nous montre qui est Jésus, combien il est puissant, qu'il est. Dans l'évangile de Marc, ici, Jonas n'est pas mentionné. C'est plutôt une histoire en parallèle avec Jonas. Mais en Matthieu 12 et Luc 11, il parle explicitement de Jonas. Est-ce que tu peux faire avancer? Ah ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un veut bien lire ces versets, Matthieu 12, 38 à 42, à haute voix?
Alors, quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et disent: Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. Il leur répondit: une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Ninive se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon.
C'est quoi exactement le signe de Jonas ? Sur la page de Wikipédia, sur le sujet de typologie, Jonas est cité en première comme exemple. Donc c'est une sorte de typologie, mais ce n'est pas seulement selon Wikipédia. Jonas est un type de Jésus. Ça veut dire que Jésus est, d'une manière, l'accomplissement ou ce qui est éclairé par le type par Jonas. On comprend mieux Jésus en comparaison avec Jonas. Mais comment ça fonctionne ici? Jonas est passé trois jours et nuit dans le ventre d'un grand poisson. Et Jésus va passer trois jours et trois nuits dans la terre. Ok, on a un parallèle. En fait, quand Jonas était dans le ventre du poisson, c'est comme il était mort. C'est comme il exprime dans sa prière. Puis Jonas est revenu de la mort. Il est allé à Ninive pour proclamer le jugement de Dieu, mais aussi pour donner l'occasion pour repentance. Jésus va aussi passer trois jours dans la mort. Puis après, il va être ressuscité. Il va revenir de la mort. C'est quoi la typologie alors? C'est la typologie d'un prophète ou prédicateur qui est revenu de la mort. Ça sert comme signe que c'est le moment de repentance, ce qui est le ministère de Jésus, annoncer le moment de repentance. Donc si les gens autour de Jésus ne l'écoutent pas, ça veut dire qu'ils ont raté le signe. Et tout comme la repentance de Ninive était une condamnation pour Israël, les spécialistes de la loi et les pharisiens auraient dû accepter le message de Jésus. S'ils n'acceptent pas, au dernier jour, les gens de Ninive vont les condamner. Dans la typologie, l'antitype est l'accomplissement ou est ce qui est meilleur que le type. C'est-à-dire, le signe de Jésus est beaucoup plus clair. C'est clairement le moment de repentance. Si les gens de Ninive pouvaient se repentir après le signe de Jonas moins clair, combien plus les gens autour de Jésus doivent se repentir. Avec la venue de Jésus, on a un prédicateur revenu de la mort qui est tellement mieux que Jonas. Pas seulement parce qu'il a parce que son signe est plus clair, mais parce que Jésus était plus qu'un prophète. Chaque fois que l'Éternel a envoyé un prophète pour faire rappeler son peuple de l'Alliance, c'était juste un appel. Mais cette fois-ci, avec Jésus, qui est prophète, mais qui est plus qu'un prophète? Il est Dieu lui-même. Et il est venu pour mettre fin à l'incapacité de son peuple d'être fidèle à l'Alliance. C'est Jésus qui est notre fidélité à l'Alliance à notre place. C'est Jésus qui a effacé nos péchés. C'est Jésus ressuscité qui envoie l'Esprit qui nous permet de choisir la repentance, qui nous permet d'être les gens de l'Alliance qui sont caractérisés par la repentance. Nous habitons cette époque-là. Il est toujours le temps de repentance. Dieu, il est toujours en train d'appeler les gens à la repentance. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » C'est toujours le moment de patience. On a vu cette semaine combien Dieu est patient et combien il prend plaisir en la repentance. Ça, c'est le cœur de Dieu. Est-ce que vous avez le même cœur? Est-ce que vous avez un cœur pour repentance? Ça commence chez vous tout d'abord. On veut être les gens caractérisés par la repentance. Mais plus que ça, est-ce que vous avez un cœur comme Dieu pour voir la repentance chez les autres? Il y a des gens qui veulent dire que Jonas était missionnaire parce qu'il est parti à l'étranger pour annoncer l'évangile. Ça fait un missionnaire, n'est-ce pas? Je suis plutôt pas d'accord. Il n'a pas du tout voulu y aller. Il n'a pas annoncé l'Éternel tel comme il est. Il n'a pas cherché la repentance de Ninive. En fait, la repentance de Ninive s'irrite. C'est quoi un missionnaire de toute façon? C'est quelqu'un qui a un cœur, qui a à cœur une mission. Pas leur mission, mais la mission de Dieu. La mission d'annoncer Jésus et de chercher la repentance. Souvent, on dit chez le GBU que vous êtes les missionnaires dans vos facs. Et c'est vrai si vous avez le même cœur que Dieu pour ceux qui sont perdus à la fac. On est les missionnaires dans les facs parce que c'est toujours l'heure de la repentance. Est-ce qu'on est prêt? Parce que ça va nous coûter. Dieu vous a sauvé, non pas pour que vous puissiez avoir une vie un petit peu plus belle. Vision trop petite. Dieu vous a sauvé, non pas pour que vous puissiez avoir de bons amis au GBU. Vision trop petite. Dieu vous a sauvé parce qu'il vous aime tellement. Et il est en train de sauver les autres qu'il aime tellement aussi. Qu'est-ce que vous allez faire pour lui joindre dans sa mission? Parfois, disons souvent, ça va être moins confortable. Imaginez être moins confortable dans ton groupe GBU parce que vous avez invité tant de non-chrétiens. Imaginez être moins confortable en faisant un stand GBU pour faire du contact avec les gens. Imaginez être moins confortable en invitant un très proche ami à lire à la vallée ensemble. Imaginez choisir une carrière moins prestigieuse parce que ça vous donne plus d'occasion d'annoncer cette heure de repentance. Peut-être vous allez habiter une ville plus moche parce qu'il y a besoin d'un missionnaire comme vous. Je sais que tu vas dire ça. Je ne sais pas ce qui va être le coût pour vous. Mais imaginez être moins confortable pour que les autres puissent entendre cette nouvelle de repentance. Si on a le même cœur de Dieu, il vaut le coup. Prions. Père Céleste, on a vu cette semaine combien tu es grand, combien tu es patient envers nous, combien tu as un cœur pour que les gens puissent venir à toi en repentance sincère. Notre Père, nous voulons être les gens qui sont caractérisés par la repentance. Aide-nous de vivre chaque jour dans cette manière, d'avoir comme habitude le réflexe de repentance. Donne-nous aussi un cœur comme ton cœur, qui prend plaisir avec la repentance des autres. Tu es si patient que tu es toujours en train de chercher la repentance dans ce monde. Mets-nous à côté de toi dans ta mission. Aide-nous de choisir cette mission avant notre confort. Et on prie tout ça pour que ton nom soit glorifié dans ce monde et pour que les autres viennent à toi pour rendre gloire à toi parce que tu es digne de notre louange. On te prie dans le saint nom de Jésus. Amen.